Chapitre 27. Madame la comtesse de Beaumont connaissait l'exposition pour y avoir dîné plusieurs fois. Ce soir-là, c'est à la Belle Chocolatière, restaurant suisse situé, comme on sait, au bord de la Seine, que dînait Madame de Beaumont avec l'élite guerrière du nationalisme. Joseph Lacris, Henri Léon, Jacques de Cade, Gustave des Lions, Hugues Chasson des Aigues et Madame de Gromance qui, comme le remarqua Henri Léon, ressemblait beaucoup à la jolie servante du pastel de Lyotard dont une copie très agrandie servait d'enseigne au cabaret. Madame de Beaumont était douce et tendre. C'est l'amour, l'inexorable amour, qui l'avait mise au sein des guerriers. Elle y portait une âme faite, comme l'Antigone de Sophocle, non pour la haine, mais pour la sympathie. Elle plaignait les victimes. Jamon était la plus touchante qu'elle eût su découvrir, et la retraite prématurée de ce général lui tirait des larmes. Elle pensait lui broder un coussin de tapisserie sur lequel il reposa sa gloire. Elle faisait volontiers de ses présents, dont tout le prix était dans le sentiment. Son amour, agrandi d'admiration pour le conseiller municipal Joseph Lacris, lui laissait des loisirs qu'elle employait à s'attendrir sur les malheurs de l'armée nationale et à manger des pâtisseries. Elle engraissait beaucoup et devenait une dame respectable. La jeune Madame de Gromance formait des pensées moins généreuses. Elle avait aimé et trompé Gustave des Lions, et puis elle ne l'avait plus aimé. Mais Gustave, en lui ôtant son manteau clair à fleurs roses sur la terrasse de la Belle Chocolatière, lui murmura dans l'oreille les noms de Salros et de Vadrouille, sous les yeux baissés du maître d'hôtel respectueux. Elle ne laissa paraître aucun trouble sur son visage, mais au-dedans d'elle-même, elle le trouvait gentil, et elle sentit qu'elle allait l'aimer encore. De son côté, Gustave, pensif, comprit qu'il avait prononcé, pour la première fois de sa vie, une parole d'amour. Et gravement, il alla s'asseoir à table à côté de Clotilde. Le dîner, qui était le dernier de la saison, ne fut point joyeux. La mélancolie des adieux se fit sentir, et une certaine tristesse nationaliste. Sans doute on espérait encore, que dis-je, on nourrissait encore des espérances infinies. Mais il est douloureux, quand on a tout, le nombre et l'argent, d'attendre de l'avenir, du vague et lointain avenir, le contentement des longs désirs et des ambitions pressantes. Seul Joseph Lacris gardait quelque sérénité, pensant avoir assez fait pour son roi en se faisant élire conseiller municipal par les républicains nationalistes des grandes écuries. En somme, dit-il, tout s'est bien passé le 14 juillet à Longchamp. L'armée a été acclamée, on a crié « Vive Jamon, vive Bougon !» Il y a eu de l'enthousiasme. « sans doute, dit Henri Léon, mais Loubet est rentré intact à l'Élysée, et cette journée-là n'a pas beaucoup avancé nos affaires. » Hugues Chasson des Aigues, qui portait une balafre toute fraîche sur le nez, qu'il avait grand et royal, fronça les sourcils et dit fièrement « Je vous réponds que ça a chauffé à la cascade. Quand les socialistes ont crié « Vive la République, vive les soldats !»« La police, dit Madame de Beaumont, ne devrait pas permettre de pareils cris. » Quand les socialistes ont crié « Vive la République, vive les soldats !» nous avons répondu « Vive l'armée, mort aux Juifs !» Les œillets blancs que j'avais dissimulés dans les massifs ont rallié à mon cri. Ils ont chargé les églantines rouges sous une pluie de chaises de fer. Ils étaient superbes. Mais que voulez-vous, la foule n'a pas rendu. Les Parisiens étaient venus avec femmes, enfants, paniers, filets de ménagères pleins de nourriture, et les parents de province arrivaient pour voir l'exposition, de vieux cultivateurs, les gens raides, qui nous regardaient avec des yeux de poisson, et les paysannes en fichu, méfiantes comme des chouettes. Comment vouliez-vous soulever ces familles ? Sans doute, dit Lacris, le moment était mal choisi. D'ailleurs, nous devons respecter, dans une certaine mesure, la trêve de l'exposition. C'est égal, reprit Chasson des Aigues, nous avons bien cogné à la cascade. Oh, j'ai pour ma part asséné un coup de poing au citoyen Bissolo qui lui a renfoncé la tête dans sa bosse. Je le voyais par terre, on aurait dit une tortue. Eh, vive l'armée, mort aux Juifs! sans doute, dit gravement Henri Léon, mais vive l'armée et mort aux juifs, c'est un peu fin pour les foules. C'est, si j'ose dire, trop littéraire, trop classique, et ce n'est pas assez révolutionnaire. Vive l'armée, c'est beau, c'est noble, c'est régulier. C'est froid, mais oui, c'est froid. Et puis, voulez-vous que je vous dise, il n'y a qu'un moyen, un seul, d'emballer la foule, la panique. Croyez-moi, on ne fait courir une masse d'hommes sans armes qu'en leur mettant la peur au ventre. Il fallait courir en criant « Que sais-je ? Sauf qui peut, alerte, vous êtes trahis, Français, vous êtes trahis !» Si vous aviez crié cela ou quelque chose de pareil, d'une voix lugubre sur la pelouse, en courant, 500 000 individus couraient avec vous, plus vite que vous, et ne s'arrêtaient plus. C'eût été superbe et terrible. Vous étiez renversés, foulés aux pieds, mis en bouillie, mais la révolution était faite. « Vous croyez ? » demanda Jacques de Cade. « Oh, n'en doutez pas, reprit Léon. Trahison, trahison, c'est le vrai cri d'émeute, le cri qui donne des ailes aux foules, qui fait marcher du même pas les braves et les lâches, qui communique un même cœur à 100 000 hommes et rend des jambes aux paralytiques. Ah, mon bon Chasson, si vous aviez crié à Longchamp, nous sommes trahis !» Vous auriez vu votre vieille chouette avec son panier de dur et son parapluie et votre bonhomme aux jambes de bois courir comme des lièvres. Courir où ? Demanda Joseph Lacrisse. Où ? Je n'en sais rien. Dans les paniques, sait-on où va la foule ? Le sait-elle elle-même ? Mais qu'importe, le mouvement est donné, ça suffit. On ne fait plus des émeutes avec méthode. Occuper les points stratégiques, c'était bon aux temps antiques de Barbès et de Blanqui. Aujourd'hui, avec le télégraphe, le téléphone ou seulement les bicyclettes des flics, tout mouvement concerté est impossible. Voyez-vous Jacques de Cade occupant le poste de la rue Grenelle ? Non, il n'y a de possible que les mouvements vagues, immenses, tumultueux. Et la peur unanime et tragique, est seule capable d'emporter l'énorme masse humaine des fêtes publiques et des spectacles en plein air. Vous me demandez où la foule du 14 juillet aurait fui, flagellée, comme par un immense drapeau noir, par les cris lugubres de trahison, trahison, l'étranger, trahison. Où elle l'aurait fui, mais dans le lac, je pense. Dans le lac, dit Jacques de Cade, alors elle se serait noyée, voilà tout. Eh bien, reprit Henri Léon, 30 000 citoyens noyés, ce n'était donc rien. Le ministère et le gouvernement n'en auraient donc éprouvé ni difficultés sérieuses, ni périls réels. Ce n'était donc pas une journée. Tenez, vous n'êtes pas des politiques, vous n'êtes pas fichu de renverser la République. Oh, vous verrez cela après l'exposition, dit le jeune de Cade avec la candeur de la foi. Moi, pour commencer, à Longchamp, j'en ai crevé un. Ah, vous en avez crevé un ? Demanda le jeune des Lions avec intérêt. Quel type était-ce ? Un ouvrier mécanicien. Si ça avait été un sénateur, ça aurait mieux valu, mais dans une foule, on a plus de chance de tomber sur un ouvrier que sur un sénateur. Qu'est-ce qu'il faisait, votre mécanicien ? Demanda la crise. Il criait « Vive les soldats ! Je l'ai crevé !» Alors le jeune des Lions, piqué d'une émulation générale, et fit connaître qu'un socialiste Dreyfusard, ayant crié « Vive Loubet !», il lui avait cassé la gueule. « Ah, tout va bien !» dit Jacques de Cade. « Il y a des choses qui pourraient aller mieux, » dit Hugues Chasson des Aigues. « Ne nous congratulons pas trop. Le 14 juillet, Loubec, Valdec, Millerand, André sont rentrés chacun chez soi. Ils n'y seraient pas rentrés si on m'avait écouté. Mais on ne veut pas agir. Nous manquons d'énergie. » Joseph Lacrisse répondit gravement, « Non, nous ne manquons pas d'énergie. Mais il n'y a rien à faire pour l'instant. Après l'exposition, nous agirons vigoureusement. » Le moment sera favorable. La France, après la fête, aura mal aux cheveux. Elle sera de mauvaise humeur. Il y aura des chômages et des craques. Rien ne sera plus facile alors que de provoquer une crise ministérielle et même une crise présidentielle. N'est-ce pas votre avis, Léon ?
Sans doute, répondit Léon. Mais il ne faut pas se dissimuler que dans 3 mois, nous serons un peu moins nombreux et que Loubet sera un peu moins impopulaire.
Jacques de Cade, des Lions, Chasson des Aigles, Lacrisse... Tous les trublions ensemble protestèrent et s'efforcèrent d'étouffer par leurs cris une si fâcheuse prédiction. Mais Henri Léon, d'une voix très douce, poursuivit. « C'est fatal, Loubet sera de jour en jour moins impopulaire. Il était haï sur l'idée que nous avions donnée de lui. Il ne la remplira pas toute. Il n'est pas assez grand pour égaler l'image que nous en avions dressée à l'épouvante des foules. »
Nous avons montré un Loubet de 100 coudées, protégeant les voleurs parlementaires et détruisant l'armée nationale. La réalité paraîtra moins effrayante. On ne le verra pas toujours sauver les voleurs et désorganiser l'armée. Il passera des revues. Cela vous pose un homme. Il ira en voiture. C'est plus honorable que d'aller à pied. Il donnera des croix, il répandra abondamment les palmes académiques. Ceux qu'il aura décorés ou palmés ne croiront plus qu'il veut livrer la France à l'étranger. Il aura des mots heureux, n'en doutez pas. Les mots heureux, ce sont les plus bêtes. Il n'y a qu'à voyager pour être acclamé. Les paysans crieront sur son passage « Vive le président !» comme si c'était encore le bon tanneur que nous pleurons parce qu'il aimait bien l'armée. Et si l'alliance russe venait à repiquer, j'en frissonne, vous verriez nos amis nationalistes dételer sa voiture. Je ne dis pas que c'est un homme d'un puissant génie, mais il n'est pas plus bête que nous. Il cherche à améliorer sa position, c'est bien naturel. Nous avons voulu le couler, il nous use. Nous user, je l'en défie, s'écria le jeune Decade. Le temps seul, reprit Henri Léon, suffit à nous user. Ainsi, notre conseil municipal de Paris, qu'il fut beau le soir du ballottage qui nous donna la majorité. « Vive l'armée, mort aux Juifs !» criaient les électeurs, ivres de joie, d'orgueil et d'amour. Et les élus radieux répondaient « Mort aux Juifs, vive l'armée !» Mais comme le nouveau conseil ne pourra ni dispenser du service militaire tous les fils de ses électeurs, ni distribuer aux petits commerçants l'argent des riches israélites, ni même épargner aux ouvriers les souffrances du chômage, il trompera de vastes espérances et deviendra d'autant plus odieux qu'il aura été plus désiré. Il risque avant peu de perdre sa popularité dans la question des monopoles, eau, gaz, omnibus. « Vous êtes dans l'erreur, mon cher Léon !» s'écria Joseph Lacrisse. « Pour ce qui est du renouvellement des monopoles, rien à craindre. Nous dirons à l'électeur, nous vous donnons le gaz à bon marché. Et l'électeur ne se plaindra pas. » Le conseil municipal de Paris, élu sur un programme exclusivement politique, exercera une action décisive dans la crise politique et nationale qui va éclater après la fermeture de l'exposition. « Oui, mais pour cela, dit Chasson des Aigues, il faut qu'il prenne la tête du mouvement démagogique. S'il est modéré, régulier, sage, conciliant, gentil, tout est fichu. Qu'il sache bien qu'on l'a nommé pour renverser la République et chambarder le parlementarisme. « la trompe !» s'écria Jacques Decade. Qu'on y parle peu, mais bien, poursuivit Chasson des Aigues. « La trompe, la trompe !» Chasson des Aigues dédaigna l'interruption. « Qu'on émette de temps à autre un vœu, un pur vœu, tel que celui-ci, mise en accusation des ministres. » Le jeune Decade cria plus fort « La trompe, la trompe !» Chasson des Aigues essaya de lui faire entendre raison. « Je ne suis pas opposé en principe à ce que nos amis sonnent l'alali des parlementaires, mais la trompe est, dans les assemblées, l'argument suprême des minorités. » Il faut la réserver pour le Luxembourg et le Palais Bourbon. Je vous ferai remarquer, mon cher ami, qu'à l'hôtel de ville, nous avons la majorité. » Cette considération ne toucha pas le jeune cadre qui cria plus fort que devant « La trompe, la trompe ! Savez-vous donner de la trompe, Lacrisse ? Si vous ne savez pas, je vous apprendrai. Il est nécessaire qu'un conseiller municipal sache sonner de la trompe. » « Je reprends, dit Chasson des Aigues, sérieux comme s'il taillait un bac. Premier vœu du conseil, mise en accusation des ministres. Deuxième vœu, mise en accusation des sénateurs. Troisième vœu, mise en accusation du président de la République. Après quelques vœux de cette force, le ministère procède à la dissolution du conseil. Le conseil résiste et fait un appel véhément à l'opinion. Paris outragé se soulève. » « Croyez-vous, demanda doucement Léon, croyez-vous, Chasson, que Paris outragé se soulèvera ?»« Je le crois, dit Chasson des Aigues. »« Je ne le crois pas, dit Henri Léon. Vous connaissez le citoyen Bissolo, puisque vous l'avez décervelé le 14 à la revue. Je le connais aussi. Une nuit, sur le boulevard, pendant une des manifestations qui suivirent l'élection du triste Loubet, le citoyen Bissolo vint à moi, comme au plus constant et au plus généreux de ses ennemis. Nous échangeâmes quelques paroles. Tous nos camelots donnaient les cris de « Vive l'armée !» grondaient de la Bastille à la Madeleine. Les promeneurs, amusés et souriants, nous étaient favorables. lançant comme une faux son long bras de bossu vers la foule, Bissolo me dit « Je la connais, la rosse. Montez dessus, elle vous cassera les reins en se couchant par terre, tout d'un coup, quand vous ne vous méfierez pas. » Ainsi parla Bissolo au coin de la rue Drouot, le jour où Paris s'offrait à nous. « Mais il outrage le peuple, votre Bissolo !» s'écria Joseph Lacrisse. « Il est infâme !»«
Il est prophétique !» répliqua Henri Lyon.
« La trompe, la trompe! Il n'y a que ça !» chanta d'une voix pâteuse le jeune Jacques de Cade.
C'était Monsieur Bergeret à Paris, quatrième et dernier volume de l'Histoire contemporaine d'Anatole France.